Annette et le criminel, chapitre 26. Annette était assise dans le salon de Madame Servigné, la mère. Elle était sur un fauteuil, et pâle, égarée, elle regardait Charles, dont l'effroi et la feinte tranquillité rendaient la figure un théâtre où se jouaient mille passions diverses. Monsieur et Madame Gérard, mornes, abattus, changés à ne pas les reconnaître, était debout avec Madame Servigné, Adélaïde et Madame Bouvier. Tous rangés en cercle autour de Charles, ils attendaient sa parole avec une anxiété sans égale. « 7 heures, dit Annette, me sera comptée pour des siècles d'enfer. « Pouvez-vous soutenir un seul mot ?» lui dit Charles, avec une espèce de férocité qui n'était que le résultat de cette horrible situation. « Je suis chrétienne, » répondit Annette. « Il est condamné à mort, » répondit Charles. Madame Gérard et Adélaïde tombèrent évanouies. Madame Servigné recula épouvantée, mais Annette se leva. Ce mouvement, produit par une horrible convulsion, fit tomber son peigne, ses cheveux se déroulèrent et devinrent épars sans qu'elle y fît la moindre attention. Elle, si chaste et si pure, elle que son cou nu épouvantait jadis. « Charles, viens, sortons, il me faut de l'air, j'étouffe. Je n'étouffe pas de peur, non, un je ne sais quoi s'empare de moi. Sortons. » En disant ces paroles, ses yeux s'animèrent. Il y brilla une expression d'énergie sauvage. Elle leva ses bras comme si elle eût voulu exercer une force supérieure qui lui vint malgré elle. Elle saisit son cousin, l'entraîna sans vouloir lui dire un seul mot et courut comme poussée par un démon. Quand elle fut dans la rue, elle s'écria « Ah, je respire! Oh, que l'air est bon, qu'il fait frais !» En ce moment, l'horloge du palais sonna minuit. « Que voulez-vous faire ?» demanda Charles. « Ce que je veux !» s'écria-t-elle avec une énergie croissante. « Dieu du ciel, ce que je veux ! Je veux une seule chose, le sauver ! C'est mon éternelle pensée, c'est ma vie, mon âme ! Ou je ne connais pas mon pouvoir, ou je le sauverai ! J'ai en ce moment une terrible puissance. Viens, et tu vas voir comme je soulèverai tout un peuple. On l'aime, 1000 bras veulent le délivrer. Il ne faut qu'une voix pour les rassembler, qu'une volonté pour les faire agir. Il faut une âme à cette masse-là. Je serai sa volonté, son âme, sa vie. Éveillez-vous, au secours! Taisez-vous, ma cousine, vous allez vous perdre. Que m'importe de me perdre s'il est perdu? Avenir, fortune, vie, je veux tout sacrifier, je veux le sauver. Seulement 1 an, 1 minute. Oh là, braves gens, venez ici, venez m'aider. Tais-toi, lui dit un homme enveloppé d'un grand manteau et dont le chapeau était rabattu sur le visage. Tais-toi, si l'on délivrait les hommes avec des paroles, ton cousin l'aurait fait. « C'est Vernier ! » s'écria-t-elle. « Il est sauvé !»« Te tairas-tu ? » dit Vernier. « Ne prononce pas un mot et viens avec moi. J'allais te chercher, car il n'y a que toi qui puisses le déterminer à nous suivre. Enveloppez-vous de ce manteau, prenez ce poignard et venez. »«
Pourquoi un poignard ? » ?»«
Pour vous défendre. »«
Ah ! » dit-elle, « je ne veux blesser personne. »«
Enfant ! » dit Vernier. « On enlève des prisonniers avec des roses, n'est-ce pas ?»«
Marchons, » dit-elle, « marchons !»«
Oui, » dit Vernier, « vous serez notre étendard. »«
Ah ! » répondit-elle en marchant, « si l'amour créait des armées, vous seriez bien puissant. »
Ils marchèrent en silence, mais au détour d'une rue, ils furent arrêtés, et l'on cria à voix basse,
« Qui vive ?»«
Daphné et l'Ancien, » répondit Vernier.
Puis, allant vers les 3 personnes qui gardaient le passage, il leur demanda
« Où est Jeanneton ?»«
Nulle part, »
répondirent-ils. Alors Vernier passa sans difficulté. Nous allons décrire, le plus succinctement qu'il sera possible, la prison de Valence et sa position. Cette prison était un ancien presbytère
qui, pendant la Révolution, avait subi cette triste destination. Ce presbytère était situé sur une petite place carrée à laquelle aboutissaient deux rues différentes. L'une menait à Durental et l'autre à la route de Paris. La place était formée par des maisons presque toutes bâties en bois et les deux rues dont nous venons de parler étaient opposées l'une à l'autre en parallèle, de manière qu'elles longeaient les murs de la prison qui alors se trouvait séparée par trois côtés de toute espèce d'habitation, car sa façade donnait sur la place et de chaque côté étaient les rues. La porte de la prison était garnie de fer et chaque croisée, chaque issue, sur la place comme sur les rues adjacentes, était enjolivée de gros barreaux de fer et de treillages en fil de fer qui ne laissaient aucun espoir de salut. Enfin, il y avait toujours à cette prison un poste très considérable de soldats de la ligne, outre les gendarmes de service. Ce poste était situé à côté de la porte même, et la salle du corps de garde communiquait avec le rez-de-chaussée du presbytère. Il y avait toujours une sentinelle en faction à la porte de la prison, mais sa guérite était du côté gauche, parce que le poste étant à droite avait sa sentinelle particulière, ce qui faisait deux hommes de garde pour la porte seule de la prison, sans compter les autres sentinelles. L'administration, d'après le grand intérêt que l'on avait manifesté pour Jacques de Durental, mais craignant aussi l'active amitié de Vernier et la puissance d'Annette sur la multitude des campagnes, avait ordonné, dès le commencement du procès, de doubler la garde et de faire de fréquentes patrouilles dans Valence. Vernier, pour qui la délivrance d'Argot était un sujet de contenter son ardeur et que de semblables affaires aiguillonnaient, avait résolu de venger son ami tout en le délivrant. Et, dans sa haine contre la ville où les hommes l'avaient si justement condamné, il prit des mesures telles qu'il fallait de grands secours à la prison pour empêcher cette délivrance. En ce moment, le terrible lieutenant, tenant Annette sous le bras, parcourait avec activité tous ses postes, car l'instant fatal approchait. Il avait donné pour signal le son de la cloche quand elle sonnerait 1 heure du matin. Il avait réussi à rassembler, pendant tout le temps que le procès et son instruction durèrent, une trentaine de ses anciens corsaires. C'était tout ce qui en restait. Il avait été avant la pavée, à Paris, d'abord recueillir tous les renseignements qui servirent si bien Charles dans sa première défense. Mais ensuite, pour convoquer une réunion générale de ses anciens marins. Ce que l'on a vu au commencement de cette narration, arrêter la diligence, n'y manquèrent pas. Et avec les trois nègres dévoués, Vernier réunit 37 hommes, qui tous, les nègres exceptés, avaient coopéré aux pirateries d'Argot. Vernier les avait pérorés, et cette harangue ferait pâlir celle de Catilina à ses complices, s'il nous était permis de pouvoir la rapporter. Le serment qu'ils prêtèrent tous fut affreux. Voici la conclusion. L'on jurait d'obéir à Vernier, comme jadis l'on obéissait au capitaine. Le but était la délivrance de l'ancien, nom qu'il ne cessait, comme on l'a vu, de donner à Argot. Que si l'on y parvenait, ceux qui resteraient en vie seraient transportés aux Bermudes, qu'on leur compterait une somme fixe et qu'ils iraient ensuite où bon leur semblerait. Que, s'ils ne délivraient pas leur ancien, ils le vengeraient en désolant le pays jusqu'à ce qu'ils fussent tous morts, jusqu'au dernier. Les brigands s'entendent. Maintenant, la suite va faire voir comment Vernier s'y était pris pour délivrer son ami. Il arriva sur la place avec Annette, qui, en proie à une horreur que rien ne peut rendre, ne réfléchissait plus et n'avait plus qu'une seule pensée, la délivrance de l'être qu'elle adorait. « Qu'avez-vous là ? » dit-elle à Vernier, en sentant sur le dos de ce dernier une foule d'instruments. « C'est une hache, mon tromblon et ma giberne. »« Dieu, que va-t-il donc arriver ? » ?»« Je ne sais pas encore comment cela se passera, mais nous sommes en guerre depuis que l'arrêt a été rendu.
Le sauverez-vous ?
Oui, ou nous périrons.
Tous ?
Demanda-t-elle. Oui.
Tant mieux !
Reprit-elle avec le regard et les gestes de la folie.
Mais Vernier, écoutez, si l'on échoue, promettez-moi de me tuer, car si je survivais, je ne me tuerais pas, moi.
Ah ! Ajouta-t-elle, je savais bien que mes pressentiments étaient tous vrais. Il faisait en ce moment une horrible obscurité. Un silence étonnant régnait, et l'on n'entendait dans la place que les pas de deux sentinelles de la prison. Une heure sonna. Vernier tressaillit, et Annette lui demanda ce qu'il avait.
« Nous allons commencer à ce moment une vie d'enfer. »
Annette jeta un cri en disant « Ah, je ne pourrai jamais voir de telles scènes. »«
Voulez-vous le sauver ?»«
Oui, » dit-elle. « Eh bien, fermez les yeux sur tout ce que vous allez voir. La mort pourra vous atteindre, mais Jeanneton y est bien, elle, avec moi. »«
Me voilà ?»
cria doucement une petite voix de femme.
« Silence !» lui répondit Vernier. « Et prends Annette avec toi. Rends-toi dans la maison qui est au coin de la rue de Paris et restes-y avec madame, jusqu'à ce que Milo vienne vous chercher. »
L'intrépide lieutenant resta seul. Et à ce moment, une ombre gigantesque, projetée par la lumière de la lune qu'un nuage laissa paraître un moment, se dessina sur le pavé.
« Hein ! » dit Vernier. « Qui vive ?»
Un homme parut et répondit à voix basse
« L'ancien !»
Au bout d'un gros quart d'heure, 37 hommes avaient comparu ainsi, lentement et mystérieusement, devant Vernier. Ils semblaient marcher sur du velours, car ils ne firent aucun bruit, et ils se rangèrent le long des maisons, qui, de l'autre côté de la place, formaient le parallèle de la façade de la prison. Il les passa en revue pour s'assurer qu'ils étaient bien tous. Ayant fait, il se dirigea vers la rue qui menait à Durental, et là demanda à une troupe également rangée contre les maisons si Jacob était venu. À ces mots, un homme de la taille et de la corpulence d'Argot se présenta. Il était habillé absolument de même, et à quelques pas, il devenait presque impossible de ne pas s'y tromper.
« Enveloppe-toi de ton manteau pour n'être pas reconnu, » lui dit-il, « et prends garde de te faire tuer, au risque de passer pour un lâche. »
Enfin, il s'assura par lui-même de l'arrivée d'une des voitures d'Argot, et il ordonna d'y atteler 6 chevaux qui se trouvaient dans une maison qu'il avait louée sous un nom emprunté. Il revint dans la place, et retournant à la maison dans laquelle Jeanneton avait peine à contenir Annette, il s'assura que 3 chevaux scellés et bridés étaient prêts, ainsi que plusieurs déguisements. L'horloge annonça en ce moment 1h30, et les nuages étaient tellement noirs et rassemblés qu'on ne pouvait rien voir. Alors, à un signal donné par Vernier, une boutique fut ouverte. Un homme parut avec une torche, et les 37 brigands, jetant des cris effroyables, s'élancèrent sur le corps de garde et sur la prison avec la rapidité de l'éclair. 37 fagots furent lancés contre la porte et l'homme à la torche y mit le feu. À cette brusque et vigoureuse attaque, les 2 sentinelles, sans crier qui vive, tirèrent ensemble et au hasard sur cette masse en criant « Aux armes !» Le poste entier sortit, mais il fut enveloppé et combattu par les assaillants. La flamme, attisée par l'homme à la torche, s'éleva dans le bûcher préparé, et bientôt le feu prit à la porte de la prison. Aux cris terribles lancés par les soldats et par les brigands, tous les habitants de la place furent éveillés, et apercevant des flammes, ils descendirent sans seulement se vêtir, en criant « Au feu ! Au feu !» En un moment, de tous les côtés, arrivèrent des habitants, parmi lesquels était un bon nombre de paysans des environs de Durental, parmi lesquels Vernier avait fait répandre le bruit qu'on allait délivrer leurs bienfaiteurs. Cette action, ce tumulte, rapide comme la pensée, furent en mouvement comme par magie. La troupe des brigands combattait avec une extrême vaillance contre les soldats. Les balles sifflèrent dans l'air, les cris augmentèrent, la terreur se répandit comme une pluie d'orage, et d'horribles flammes éclairèrent le théâtre de l'action. Au milieu des brigands était Vernier, qui les dirigeait et les encourageait. Quand tout à coup, sur un geste qu'il fit, ils se rangèrent en demi-cercle, et Vernier lança sur le poste une telle décharge de mitraille que tous les militaires, comme anéantis, disparurent, s'enfuirent ou moururent, sans qu'on eût su comment. Alors, le lieutenant s'élançant avec sa hache vers la porte qui brûlait, lui donna à travers les flammes de tels coups de hache, et ses satellites firent tant d'efforts qu'elle céda sous leurs coups. Ils entrèrent pêle-mêle par la porte principale, par celle de communication entre la prison et le corps de garde, et furent suivis de la multitude. La maison d'où l'homme à la torche était sorti brûlait. Les habitants des maisons voisines déménageaient, en sorte que rien n'était curieux comme le spectacle offert par cette place qui, un instant avant, était muette, tranquille, sombre et vide. Elle était remplie d'une foule si abondante et si tumultueuse qu'on ne pouvait ni en sortir ni y entrer. Et par les trois issues, la foule y abondait toujours. Le tocsin sonnait, on entendait au loin la générale battre, et des cris horribles étaient lancés dans les airs par les prisonniers qui sentaient la fumée remplir la prison, et par les incendiaires qui sauvaient leurs effets en tâchant de se faire jour à travers ce fleuve de peuple. De là, des combats particuliers qui établissaient au sein de la foule même des scènes d'horreur. À la lueur effrayante de l'incendie, on apercevait les flammes dans la prison, et une épaisse fumée s'élevait du faîte de ce palais du crime. Il semblait que ce fût un volcan, prêt à lancer une lave terrible et lumineuse. On entendait un combat qui devait être sanglant dans l'intérieur de la prison. Les détonations d'armes à feu, les cris surpassaient ceux de la place, et l'on voyait, par la porte et les fenêtres, des poutres enflammées tomber, des prisonniers se sauver en désordre, les uns nus, les autres couverts de leurs vêtements comme d'un chapeau préservateur. Les pompiers arrivaient avec leurs pompes. Le tumulte et la confusion, les cris et l'horreur étaient au comble, et tous ces attentats affreux se commettaient par des hommes plus affreux encore, et au profit d'un seul homme, auquel la société devait donner la mort, et qui la méritait mille fois. Au moment où l'attaque de la prison commença et que l'horrible tapage se fit entendre, Argot était à genoux dans sa prison et priait Dieu avec ferveur de lui pardonner ses crimes en faveur de la coupe d'humiliation qu'il devait épuiser jusqu'à la lie. Les cris, la fumée, le tumulte le tirèrent de sa méditation. Et quand il se releva, frappé par le bruit de la mousqueterie tirée dans l'intérieur de la prison, il entendit de grands coups de hache que l'on donnait dans sa porte, et vit paraître Milo, Vernier et plusieurs hommes ensanglantés, brûlés, et dont les figures annonçaient la chaleur d'une action dangereuse. « Sauvez-vous, vous êtes libres !» Argot resta muet et immobile. « Jacques, suis-moi !» lui dit Vernier. « Non !» s'écria avec indignation le criminel. « Vous avez sans doute emporté d'assaut la prison, vous avez... »« Oh, le voilà qui déraisonne !» s'écria Vernier en l'interrompant. « Allons, tais-toi, vieux radoteur. Et toi, Milo, va chercher d'autres arguments. »« Vous, » dit-il à ses brigands, « gardez-le et ne l'écoutez pas. » En ce moment, des détachements de gendarmerie et des troupes de ligne arrivaient, en hâte, par les rues adjacentes, et cherchaient à se faire jour à travers la multitude pour s'établir sur la place. À force de pousser, débattre et de fouler aux pieds cette multitude immense, la force armée avait fini par entrer dans la place et essayer de se mettre en ligne, toute confondue qu'elle était avec le peuple. Alors, la foule poussée par sa propre force vers la prison, par un horrible flux et reflux de têtes humaines, se replia tout à coup et brusquement sur elle-même, et un détachement des brigands, jetant un terrible « hourra » de joie, criait à la délivrance et portait en triomphe le criminel. La foule, rangée en demi-cercle devant la prison, les vit passer. Ce cœur, armé jusqu'aux dents, et composé d'hommes aux vêtements brûlés ou en désordre, et ayant d'horribles figures rendues plus horribles encore par l'effroyable réverbération de l'incendie à reflets rougeâtres, conduisit Argot vers la voiture que le peuple apercevait et dont les 6 chevaux hennissaient. À cette vue, et au cri général « Il est sauvé ! Il est sauvé !» répété par des milliers de voix, l'escadron de gendarmerie à cheval, stimulé par le chef, fendit vigoureusement la foule sans s'inquiéter des malheurs, et passant rapidement sur le ventre de chacun. Chacun hurla, beugla, cria. Les jambes, les bras, les oreilles furent meurtries, mais, au moment où les gendarmes arrivèrent à la voiture, elle partit au grandissime galop vers Durental, et l'on vit l'escadron la poursuivre à toute bride. Les brigands qui venaient de porter Argot à sa voiture se mêlèrent à la foule, mais tous, selon les instructions de leur chef, coudoyèrent, foulèrent cette masse, et vinrent devant la prison se former en bataille. Milo avait été chercher Annette et Jeanneton. Il les fit passer par les débris d'un mur du jardin de la prison que l'on avait abattu, et il les amena, à travers l'incendie, jusqu'à Argot, qui refusait obstinément de partir. Plus l'on attendait, et plus la force armée, que, sur les avis réitérés, l'on ne cessait d'envoyer, mettait de régularité dans ses mouvements et de patience à s'ouvrir un chemin dans la foule que l'on faisait écouler. Le danger devenait pressant, et si Vernier n'avait pas compté sur de grands délais, il avait pris des précautions en cas de malheur. Aussi, en ce moment, tous les brigands se tenaient sous le porche enflammé de la prison et s'apprêtaient à soutenir un siège, s'il le fallait, et à s'enfuir par les derrières aussitôt que le « sauve-qui-peut » aurait été proclamé, car ils avaient un autre rendez-vous général après l'expédition. Ceux qui seraient blessés devaient être mis à mort par les vivants, et nul ne devait se laisser capturer. Ce fut en ce moment critique qu'Annette et Jeanneton traversèrent les corridors enflammés et arrivèrent, conduites par Milo, dans la cellule où le criminel haranguait, avec son ancienne énergie, ses anciens corsaires et tâchait de les faire rentrer dans le devoir et de les soumettre aux lois. Cet homme, condamné à mort, prêchant au milieu d'un incendie et s'obstinant à périr, offrait un tableau curieux.
« Tu ne veux pas te sauver ?»
s'écria Annette en se précipitant sur lui et le couvrant de ses larmes. Elle était les cheveux épars, les yeux égarés.
« Je suis condamnée à mort, » reprit-il.
« Eh bien, soit, » dit Annette, « mais il est des morts glorieuses que l'on peut aller chercher quand on est condamné. Sauve-toi et va mourir au milieu d'un combat pour l'indépendance d'un peuple. » Meurs en héros, en écoutant les cris de liberté, d'indépendance ou de victoire. Cours voir tout un peuple t'appeler son libérateur. Meurs ainsi et non sur un échafaud au milieu d'un peuple curieux. Tu seras mon époux de gloire et je combattrai à tes côtés. Je mourrai avec toi.
Douce Colombe, s'écria Jacques, tu es là au milieu de l'horreur et de l'infamie comme un ange. Et ta voix semble celle du ciel. Écoute-la donc, et vis pour léguer à ton fils un héritage de gloire, au lieu du sanglant héritage d'opprobre dont ton sang arroserait sa tête. Viens, viens, suis-moi. Qu'il vive, s'écria-t-elle avec enthousiasme. Et voyant l'incendie s'accroître, la fumée devenir épaisse, elle sentit couler en elle un autre sang, une autre énergie, qui lui était envoyé comme du ciel. Elle regarda Argot, le saisit, et, le soulevant, elle l'emporta à travers le corridor embrasé, en pliant parfois sous ce fait chéri. Elle fut suivie de Jeanneton et de Vernier, qui l'admirèrent, évitaient les poutres enflammées et volèrent à travers l'incendie comme une créature privilégiée que les flammes eussent eu ordre de respecter. À ce moment, une horrible détonation eut lieu, et annonça, par le bruit des tambours qui retentirent, que les soldats avaient remporté la victoire. Vernier courut à travers les flammes, il rallia les brigands épouvantés, il les réunit, et ayant lancé une dernière décharge sur la troupe, il s'écria d'une voix tonnante « Sauve qui peut !» À cet horrible cri répété, ils s'élancèrent tous dans le jardin et léguèrent au vainqueur une maison que l'incendie gagnait déjà. Cependant, Annette, Jeanneton, Milo, Argot s'étaient déguisés. Montant alors sur 3 chevaux, ils se sauvèrent à toute bride sur la route de Paris et l'abandonnèrent au premier chemin de traverse qui se présenta. Vernier avait de l'or sur lui. Laissons-les fuir. On finit à Valence par faire un cordon de troupes autour de la prison qu'on laissa brûler. On dissipa la foule avec une peine infinie, on éteignit le feu des maisons, et 3 jours après, l'on rechercha et l'on ensevelit les morts que l'on put retrouver dans les décombres. L'on avait arrêté une foule de personnes. L'ordre était rétabli, non sans peine, et diverses relations, toutes plus exagérées les unes que les autres, courait par toute la contrée sur l'événement de cette terrible nuit. L'on portait le nombre des brigands à 300, et 1000 autres choses pareilles. Une circonstance certaine, c'est que, parmi les personnes arrêtées, l'on n'en reconnut aucune qui pût être suspecte. L'on n'avait pas encore de nouvelles de la voiture que les gendarmes poursuivaient, et la police de Valence agissait avec la plus grande activité dans tout le département pour parvenir à retrouver le criminel et les auteurs de l'horrible attentat dont on vient de lire les détails. Mais la multitude des témoins enfanta une multitude de versions, et l'autorité, occupée de la foule d'incidents que cette affaire présenta, se perdit dans le dédale des mesures à prendre. L'on trouva, le 4e jour, le corps du concierge et tous ceux des employés de la prison. On reconnut sur la place les corps de 8 soldats, de 20 personnes de la ville, et dans la prison, 9 corps de personnes inconnues que l'on présuma devoir être ceux des complices de Vernier, attendu qu'ils étaient tous hommes et qu'auprès des corps il y avait des armes. Voilà tous les renseignements que l'on eut, et d'après lesquels on se mit à agir. Nous laisserons cette affaire, et dans le chapitre suivant, nous marcherons avec les fugitifs. Chapitre 27. Annette était en croupe sur le cheval d'Argot, Jeanneton sur celui de Vernier, et le fidèle Milo galopait en avant pour lever les obstacles qui pourraient s'opposer à leur fuite. Mais n'ayant éprouvé aucune difficulté à sortir de Valence, une fois qu'ils eurent atteint la grande route de Paris, ils lâchèrent la bride aux excellents chevaux que Vernier s'était procurés, et en 4 heures, ils mirent 15 lieues entre eux et Valence, et se trouvèrent dans la campagne, à l'abri de toute poursuite, tant que les événements de Valence ne seraient pas officiellement transmis par l'autorité aux moindres fonctionnaires. Ils avaient eu soin d'éviter tous les villages et toutes les habitations. Mais dès que le jour parut, ils furent forcés de chercher un asile, car le cheval de Milo était mort de fatigue, et cet avertissement leur prouva que les leurs ne tarderaient pas à les abandonner. Alors, Vernier indiqua un village retiré dans les terres, et ils s'y rendirent. Annette n'avait pas cessé, pendant toute cette route si fatigante pour elle, de tenir son mari embrassé, et lorsque les circonstances le permettaient, elle le couvrait de baisers, et quand ses discours annonçaient qu'il désapprouvait cette fuite, elle lui rappelait, par de douces et tendres paroles, qu'elle portait dans son sein un enfant qu'il ne fallait pas abandonner. Cette Annette, qu'on a vue si religieuse, si rigide, courbait maintenant la religion tout entière sous son amour, et quand celui qui jadis ne connaissait même pas l'image du Christ lui disait qu'il transgressait toutes les lois divines et humaines, cette vierge pure répondait « Si nous réussissons, c'est que Dieu le veut !» Paroles qui, de tout temps, ont été l'argument des vainqueurs. Ils entrèrent tous dans une misérable cabane dont le dehors annonçait une auberge. Et là, Vernier tint conseil avec Jeanneton et Milo. Car Annette et Jacques étaient incapables de penser aux choses de ce monde. Ils ne voyaient qu'eux, et encore le temps leur paraissait-il trop court. Argot, en s'occupant exclusivement de son épouse chérie, trouvait moyen de faire taire l'horrible souffrance de son cœur par une si douce volupté. Et il goûta un plaisir inconnu à l'aspect du sourire patient et forcé qui errait sur les lèvres adorées d'Annette. Ce sourire était comme un manteau qui cachait un enfer de douleur. En ce moment, ils oublièrent cependant tout, car les habitants de la maison étant absents, et pour la première fois se trouvant au sein de la misère, Argot cherchait à placer Annette sur une couche qu'il décora de tous les vêtements dont il pouvait se passer. De son côté, Annette tâchait de lui persuader qu'elle était bien, qu'elle ne souffrait pas. Et ce combat mutuel d'attention, d'égard, cette curieuse envie de lire dans les yeux l'un de l'autre, leur désir, enveloppa cette chétive cabane du voile diapré de l'amour et leur donna la faculté d'oublier leur cruelle position. Pendant qu'ils étaient ainsi presque heureux au sein du malheur, Vernier, Milo et Jeanneton se consultaient sur le seuil de cette cabane. « Nous avons encore 2 jours et 2 nuits, au moins, » disait Vernier, « avant que l'on se mette réellement à notre poursuite. Mais alors, tout sera contre nous. Que faire pour regagner Valence, Durantal et la route qui nous mènera à nos relais pour aller à A, où j'ai ordonné que nos 2 vaisseaux nous attendissent, car on devait savoir qu'ils étaient à Fréjus, et j'ai sagement changé leur position. Nous ne pouvons plus aller à cheval, » dit Milo. « Monsieur, vous et moi irons bien à pied, mais ces 2 dames. »« C'est vrai, » répondit Vernier. « Eh bien, nous les abandonnerons. »«
Nous séparer de vous ? » s'écria Jeanneton. « J'aimerais mieux marcher toute ma vie sans me reposer 1 minute. Ah, vous ne nous connaissez pas. »« Madame Annette, » criait-elle, et Annette accourut. « Madame, ils veulent nous laisser ici et s'en aller sans nous. » « Est-ce que vous ne vous sentez pas la force d'aller jusqu'au bout du monde à pied ?»«
Je n'irai pas seule, » répondit Annette avec un délicieux regard. « Mais avec lui, je marcherai 1000 ans sur des cailloux et pieds nus. »«
Mais, » dit Vernier en admirant l'enthousiasme de ces 2 êtres charmants qui se tenaient par la main et regardaient le ciel comme si elles étaient inspirées, tant leur exaltation et leur courage étaient rehaussés par ces cruelles circonstances. « Mais, mesdames, vous avez des souliers de satin et des bas de soie. »«
Et quand nous les aurons usés, » reprit Annette, « nous prendrons des souliers de paysans. »
« Chère Annette, » dit Argot en serrant sa femme dans ses bras, « vous êtes des créatures toutes célestes. »
L'ingénieuse sollicitude du nègre lui avait déjà fait trouver le pain noir des habitants de la cabane, et il faisait cuire des poulets qu'il avait attrapés et arrangés. Pendant qu'il apprêtait le repas, Vernier dit à Argot « Nous avons 35 lieues à faire, avant de regagner l'endroit où mes hommes seront rassemblés. Et pour être sûr que nous pouvons nous rendre au mouillage où sont nos vaisseaux, il faut que nous y soyons dans 2 jours. Or, comme nous devons passer par les campagnes de Valence et de Durantal, car le rendez-vous est à 1 lieue de l'auberge de Jeanneton, dans la forêt, il est nécessaire de faire, pendant la nuit et par les routes de traverse, ce trajet périlleux. Une fois chez Jeanneton, nous sommes sauvés, car les relais sont préparés.
« Vernier, lui dit Argot, le ciel m'est témoin que tout ce que tu fais est contre ma volonté. »
Ah, oh, dit Vernier, voilà encore du radotage. Oh, mon pauvre capitaine!
Milo vint leur dire que le repas était servi. Jeanneton, toujours gaie et folle, même au sein des périls, avait fait de l'un de ses jupons une nappe, et les mouchoirs servirent de serviettes. Elle fit 1000 plaisanteries en les voyant manger avec leurs doigts. Et lorsque les possesseurs de la cabane entrèrent et virent le nègre qui leur demanda ce qu'ils voulaient, ils furent saisis de frayeur. Ce fut Jeanneton qui leur persuada de manger de leur poulet avec eux,
et qui les rassura en leur parlant patois. Le repas fini, Vernier les surprit encore bien davantage, en leur laissant 2 pièces d'or et leur recommandant le secret. Vernier était, de 5, celui dont le costume devait donner le plus de soupçons. Il avait sur sa tête un madras à moitié brûlé. Son manteau l'était aussi de tous côtés. Il portait une ceinture large et rouge qui contenait des pistolets. Son tromblon, qu'il nommait sa fille, était passé en bandoulière avec un sac plein de balles et de charges de poudre. Et ses bottes teintes de sang, de boue et de poussière, son pantalon rempli de taches, ses gros gants brûlés, tout annonçait et indiquait l'auteur de l'incendie de Valence. Aussi, Milo gagna-t-il avec peine de pouvoir mettre en ordre les vêtements du lieutenant. Et lorsqu'on se mit en route, le bon nègre ne craignit plus de voir leur petite caravane arrêtée au premier village à cause de l'équipage du chef. Le tromblon, le sac, tout fut soigneusement caché sous le manteau, et le madras fut légué au premier fossé que l'on rencontra. Milo resta constamment en arrière. Vernier et Jeanneton, se tenant par la main, formaient l'avant-garde. Et au milieu, à 100 pas de distance, et de Milo et de Vernier, Annette et Argot marchèrent ensemble. « Ah !» disait-elle, « je l'aime bien mieux errant et vagabond que sous les verrous de cette horrible prison. » « Et Dieu ?» répondit Argot. Annette baissa la tête, et une larme roula sur sa joue. Ils marchèrent tout le jour avec un courage inouï, et malgré maintes et maintes alarmes, ils réussirent à refaire, à pied et sans être aperçus, tout le chemin qu'ils avaient parcouru à cheval pendant la nuit. Ils arrivèrent sur le soir aux environs de Valence, mais du côté de Paris. Annette et Jeanneton étaient si fatigués qu'Argot portait sa femme et le nègre Jeanneton. Les souliers de satin étaient déchirés, les pieds des deux femmes étaient ensanglantés, et cependant elles ne jetaient pas un seul cri de plainte. Lorsque Vernier ou Argot les regardaient, elles trouvaient encore assez de force pour sourire, et les douces mains d'Annette caressaient, comme par instinct, les cheveux d'Argot. Car elle était si horriblement fatiguée que c'était tout au plus si leurs yeux pouvaient regarder dans la campagne pour veiller au salut des fugitifs. Alors, la nuit était venue, et Vernier, en s'orientant, reconnut qu'ils approchaient d'un bois épais. Ne voulant pas se hasarder à entrer soit dans une auberge, soit dans un village, ils se jetèrent dans le bois. Ils s'y avancèrent avec précaution. Vernier tenait sa fille, toute chargée à la main, et allait en avant. « Nous sommes là dans une belle salle pour passer la nuit, » dit Jeanneton. « Chut !» s'écria de loin Vernier. « Au diable, les femmes, elles parlent toujours !» Ce chut les fit rester en suspens. Ils s'arrêtèrent, et dans le silence de la nuit, ils écoutèrent leur cœur battre avec violence. « J'ai une effroyable peur !» dit Annette à voix basse. « Soyons résignés, » lui répondit Argot. « Je te fatigue ?»« Non. » Alors ils entendirent une voix rauque qui leur cria un « Qui vive ?» suivi d'un horrible jurement. « Daphnie et l'ancien !» répondit Vernier, s'apprêtant à combattre. « Où est Jeanneton ?» demanda joyeusement l'inconnu. « Partout et nulle part !» répondit Vernier. Et sur le champ, il dit à la petite troupe d'avancer. Alors, ils virent briller une lumière, et en un instant, ils furent dans une espèce de grotte, au milieu de laquelle ils aperçurent un homme qui faisait griller un mouton tout entier. Vernier reconnut un de ses 37 acolytes, et ce brigand, après avoir témoigné la plus vive joie en voyant son ancien et sa compagnie, raconta comment il avait été poursuivi tous les jours par les gendarmes et comment il avait trouvé cet asile, comptant le lendemain regagner, au péril de sa vie, le poste indiqué par le lieutenant. Les événements de la nuit dernière, la course à cheval et la fatigue morale, enfin tout ce qui avait agité Vernier et ses compagnons, était si violent qu'après avoir partagé le repas du fugitif, ils succombèrent tous au sommeil. Quand Annette les vit ainsi couchés et ensevelis dans le repos, elle trembla et dit à Jeanneton « Ma sœur, car tu l'es d'âme et de courage, écoute, veillons-les. L'une de nous sera en avant à 100 pas, l'autre à 100 pas en arrière. Nous jetterons un seul cri en cas d'attaque, et celle qui ne criera pas viendra les avertir. » Alors, ces deux femmes, toutes mourantes qu'elles étaient, se traînèrent à la distance convenue et s'assirent sur leur châle. Elles eurent la constance surhumaine d'écouter, pendant toute la nuit, le moindre bruit du feuillage, les pas des animaux, le vol des oiseaux, et de veiller ainsi à la sûreté des proscrits. Elles eurent le bonheur de voir l'aurore paraître et le soleil se lever sans avoir eu lieu de troubler le repos des criminels. Elles rentrèrent, et leur arrivée réveilla en sursaut le lieutenant, qui fut stupéfait de leur courage et de leur constance. Il embrassa Jeanneton à l'étouffer, en lui disant « Nous ne sommes rien, nous autres !» Et l'intrépide lieutenant essuya, avec son manteau, des larmes qui roulaient dans ses yeux. On tint encore conseil, et grâce aux connaissances topographiques du compagnon d'infortune que Vernier avait rencontré, on connut parfaitement bien les chemins que l'on devait parcourir pour éviter Valence et Durantal, et arriver néanmoins à la forêt qui se trouvait non loin de la demeure de Jeanneton. Le corsaire leur promit de toujours aller un demi-quart de lieue en avant, et il dut tirer un coup de carabine au moindre danger. « Si je rencontre les gendarmes, ajouta-t-il, n'ayez pas la moindre inquiétude sur mon compte, je ne cours aucun risque, car j'ai l'habitude de me sauver de leurs griffes. » La caravane se remit donc en marche, mais cette journée fut tout entière employée à faire des détours, des contre-marches, des courses rapides et tout à coup ralenties. Annette et Jeanneton avaient enveloppé leurs pieds mignons de linge, et s'étaient fait des sandales avec les débris de chapeau du corsaire. Alors elles purent marcher, mais lentement. Et dans les grandes occasions, Argot et le nègre les portaient. Ils approchèrent de Valence, aux environs de laquelle on ne les cherchait certes pas. Mais en apercevant les maisons, ils eurent une terrible peur, et ne tournèrent la ville qu'avec la plus grande difficulté. Les chemins creux, les hauteurs, furent soigneusement suivis, et quand il fallait traverser une plaine, Annette et Jeanneton étaient employés comme à l'armée les éclaireurs. Enfin la nuit vint, et ils n'avaient encore rien mangé depuis le matin, mais ils avaient réussi à aller en deçà de Valence, vers Durantal, et il ne leur restait plus que 15 lieues à faire pour gagner l'auberge de Jeanneton, où se trouvait le premier des relais préparé par Vernier pour gagner le mouillage et s'embarquer. À ce moment, il se trouvait à 100 pas d'un village, distant de 2 lieues de Valence et de 3 de Durantal. Le corsaire se replia sur la caravane et revint dire qu'il venait de voir une auberge, séparée d'environ 600 pas du reste du village. Elle était située sur la grande route, de manière qu'en cas de surprise, l'on pouvait, en 3 bonds, se réfugier dans un endroit inaccessible qui lui était connu, pour lui avoir déjà servi de retraite ainsi qu'à ses camarades. Il s'engagea à introduire, sans danger, la petite troupe, et sur cette assurance, l'on se dirigea vers l'auberge. Le corsaire entra seul, et demanda 3 chambres et un souper pour 8 personnes. Ayant vu l'aubergiste seul avec sa femme, il ressortit, fit entrer Annette, Jeanneton, Vernier et Argot, en masse dans une salle basse, contiguë à celle où se tenaient ordinairement les voyageurs. Quant à Milo, il lui dit de s'introduire par les fenêtres, parce qu'il était trop connu comme domestique de Madame de Durantal. En voyant passer ces 5 personnes dans un pareil équipage, la terreur s'empara de l'hôte et de sa femme. Et pendant que Vernier et Milo, qui étaient montés par la croisée, arrangeaient la table, l'on entendit la conversation suivante. « As-tu vu comme ils étaient armés ?»« Oui, mais que penses-tu de ces gens-là »«
Ils n'ont pas bonne mine. Ce sont peut-être les brûleurs de la prison. »
Alors le corsaire entra subitement et leur dit « Comment, vous n'avez encore rien mis à la broche ? Vertu de grenadier, voulez-vous bien faire rôtir tout ce que vous avez ? Tenez, » dit-il en leur montrant 20 pièces d'or que Vernier lui avait remises. « Voilà ce que vous gagnerez ce soir, si vous voulez observer 2 choses, discrétion et silence. 500 francs, ou votre maison brûlée, choisissez. »«
Oh, c'est tout choisi, » dit la femme.
« Quand il viendra quelqu'un, nous tousserons. Et mon homme, pour ne pas vous déceler, car je vois qui vous êtes. »«
Silence !» s'écria le corsaire.
« Vous servira par l'autre porte. Tenez, monsieur, voici la clé de la porte du jardin. »«
C'est bon, » dit le corsaire. « Allez vite en besogne. »
Le souper ne tarda pas à être servi, et toutes les armes étaient préparées en cas d'attaque. Le souper terminé, tout le monde était trop fatigué pour se remettre en route. Alors on résolut de coucher dans l'auberge. On dressa pour Vernier et Argot une échelle appuyée contre la croisée de leur chambre. Enfin, le corsaire et Milo veillèrent toute la nuit en faisant sentinelle. Il n'y eut encore aucun événement, et ils passèrent dans l'auberge même une partie de la matinée. Mais sur le midi, pendant qu'ils s'apprêtaient à quitter l'auberge, et au moment où ils étaient tous réunis dans la chambre haute qui donnait sur l'escalier, ils entendirent entrer beaucoup de personnes. Et l'aubergiste et sa femme toussaient avec une violence et une complaisance très significatives. La terreur les fit rester muets et sans force. Ils prêtèrent l'oreille et entendirent la conversation suivante. « Eh bien, la mère, vous êtes donc enrhumée ce matin ?»«
Oh, mon Dieu, oui, monsieur le brigadier. Mais vous vous portez bien, ce que je crois. »«
Parbleu, non !» car depuis 3 jours nous faisons un métier que jamais je ne pensais faire étant gendarme. Et voilà 7 hommes qui sont sur les dents comme moi. Vous savez ce qui s'est passé ?
Oui, qui est-ce qui ne le saurait pas ?
Ici, le corsaire dit à voix basse à Vernier,
« Ils ne sont que 7 !»
On m'a dit qu'il y avait eu au moins 30 bourgeois de Valence de tués, une maison brûlée, sans compter la prison.
« Bah !» dit le gendarme en riant. Elles étaient assurées. Donnez-nous du vin.
Que venez-vous donc faire par ici ? Leur demanda-t-elle en leur versant à boire.
Vous ne savez donc pas, leur dit le brigadier en mettant son sabre entre ses jambes.
Cet enragé, Vernier qu'il l'appelle, c'est un lion cet homme-là. C'est celui qui a délivré son ami, monsieur de Durantal.
N'avait-il pas fait courir après une voiture vide ? On ne l'a attrapé qu'à 12 lieues de Paris, et l'on n'a trouvé qu'un bourgeois de Valence qui ressemblait à monsieur de Durantal.
« C'est, par ma foi, drôle !» s'écria l'hôtesse.
« Oui, mais ce qui n'est pas drôle, c'est que nous avons crevé nos chevaux et que nous sommes revenus à pied. »«
Ah, c'est vous qui avez couru ?»«
Oui, moi et bien d'autres. Mais nous ne sommes revenus que 7. » parce que l'on a laissé les camarades en surveillance sur toute la route.
« Oh !» dit l'hôtesse, « ils ne peuvent pas vous échapper.
« dit le gendarme, « ce sont de fiers hommes.
« Qu'y a-t-il de nouveau à Valence ?»
L'hôtesse leur versait du vin à chaque instant, et le corsaire, croyant s'apercevoir qu'elle voulait les griser, fit signe à Vernier de rester tranquille. Annette se mourait de peur et parlait à Argot pour le contenir, car il voulait se livrer plutôt que d'occasionner de nouveaux malheurs.
« Il y a, reprit le brigadier, que l'on a découvert que c'est Vernier, l'ami de Jacques, qui avait mis tout en mouvement. On a arrêté bien du monde et l'on fait des poursuites. On instruit une affaire dans laquelle tout le monde est compromis. Les gens les plus inconnus ont eu peur, mais des témoins ont déclaré que madame de Durantal, son mari, son nègre, s'étaient enfuis par la route de Paris, et l'on est sur leurs traces. On les a vus je ne sais où, et il y a ordre de visiter toutes les auberges.
« Dieu merci, ils ne sont pas dans la mienne, » dit l'hôtesse, « car je ne crois pas qu'ils leur prennent envie de retourner à Durantal. »«
C'est égal, il faut visiter tout.
à boire. On a mis tout le pays en état de siège. Croyez-vous qu'on laissera des brigands rôtir la prison, le concierge, brûler la moustache à tout un poste, en risquant d'incendier une ville, délivrer un condamné, sans qu'on les extermine tous? Vous n'avez personne en bas. »
Le brigadier se leva et visita la chambre où l'on avait dîné la veille.
« Diable, vous avez eu du monde.
Oh, ils sont partis.
Quels étaient ces gens-là?
Des marchands.
Restez, vous autres,
dit le brigadier en montant l'escalier. L'hôtesse pâlit, tout en espérant qu'il se serait sauvé. Le brigadier parvint à la chambre où étaient rangés le corsaire, Vernier et le nègre, et en ouvrant la porte, il les aperçut qui tous trois tenaient leurs armes braquées. En les voyant, il dit
« Oh, chut, ami, c'est Godburn !»«
Allons !» s'écria-t-il à haute voix. « La mer, il n'y a personne !» Vernier et Milo se regardaient avec le plus profond étonnement quand le corsaire leur dit
« C'est un des nôtres qui de tout temps a été gendarme !»
Au bout de 10 minutes, le brigadier remonta et leur dit
« Allez par haine, il n'y a encore personne, je crois. Mais prenez bien des précautions, car nous sommes semés comme les cailloux, et dans chaque village il y a des postes de la ligne. »
Depuis longtemps, le brigadier était suspect, et il y avait toujours, dans les hommes qu'on lui donnait à conduire, un surveillant auquel son grade était promis, si l'on pouvait le convaincre de perfidie et de trahison. Ce surveillant, en voyant Goldburn retourner à l'auberge et laisser ses 7 hommes sur le chemin, conçut des soupçons et revint avec précaution dans l'auberge. Il y entra, et montant l'escalier, il se montra brusquement avec son monde.
« Perdu ! Perdu ! » s'écria le corsaire en voyant les chapeaux bordés et Goldburn se ranger du côté des gendarmes en leur disant «
Vous voyez que je ne me doutais pas en vain que cette sorcière d'hôtesse nous cachait quelque chose. En avant !»
Un combat très vif s'engagea entre les gendarmes et les 3 défenseurs d'argot. Mais, après 3 décharges de mousqueterie, les gendarmes abandonnèrent la place en laissant 3 morts. Le brave corsaire avait une blessure si grave qu'il pria le nègre de l'achever afin de ne pas tomber au pouvoir de l'ennemi. Vernier et le nègre avaient reçu 2 balles, mais elles avaient porté dans les chairs, et après s'être pansés, ils rejoignirent en hâte Argot, Annette et Jeanneton, qu'ils trouvèrent dans l'endroit indiqué par le corsaire.
Chapitre 28.
Cette dernière affaire est la plus malheureuse, s'écria Vernier, car ils vont être désormais sur nos traces, et à moins d'une grande célérité, il sera difficile de leur échapper. « Nous n'avons pas à balancer. Il faut nous mettre en marche, car nous avons 1 nuit de repos. Nous ne sommes plus guère qu'à 10 lieues, et à la nuit nous prendrons le chemin à vol d'oiseau. »
Ce discours ranima l'espoir dans le cœur d'Annette, qui, heureusement, ne réfléchissait pas encore, tant elle était absorbée par son amour et les dangers. Si une voix lui avait crié «
Mademoiselle Gérard, compagne des hommes les plus criminels que la terre ait portés, les veille dans leur sommeil. » Elle eût demandé la mort à grands cris. En ce moment, elle en était fière. Elle regardait Argot avec orgueil. Tous ses pressentiments n'étaient-ils pas accomplis? Non, il y avait une horrible image de l'avenir qui n'était pas réalisée. Enfin, ils se remirent en marche, et après avoir passé 2 nuits et 1 jour, comme ils avaient passé les 2 précédents, c'est-à-dire en proie à des transes perpétuelles, à des peurs paniques et à des terreurs si cruelles qu'Argot commençait à trouver la mort plus douce qu'une telle vie, ils arrivèrent enfin au rendez-vous donné par Vernier à sa troupe. C'était dans l'endroit le plus épais d'une forêt. Des rochers et des cavernes faisaient de ce lieu une forteresse où 100 hommes pouvaient tenir en échec plus de 10 000 hommes de troupes réglées. Arrivé au chêne désigné, Vernier dit à Annette, à Jeanneton et à Argot de s'asseoir en toute tranquillité et qu'il espérait que désormais ils parviendraient au bord de la mer sans difficulté. Alors, par 3 fois, il jeta un cri rauque et bizarre
Et à l'instant, on entendit du bruit dans les arbres, dans les rochers, et il sembla que tous les hommes qui parurent furent sortis de dessous terre ou tombés du ciel.
« Combien êtes-vous ? » demanda Vernier sans les voir encore.
« 29 !» répondit une voix.
« Nous sommes trahis, je crois, » dit Vernier à voix basse, « car je ne connais pas cette voix-là. »«
Qui es-tu ? » demanda-t-il.
« Flatmer !»
« Bravo !» s'écria Vernier. « Ami, apportez des lumières, que l'on veille à 600 pas à la ronde et que l'on apporte des lits de mousse. Servez-nous un repas et nous réglerons nos comptes. » À ces mots, un hourra général s'éleva dans l'antique forêt et bientôt on apporta des flambeaux. Ces figures terribles et toutes marquées au coin de l'énergie et du courage le plus féroce effrayèrent Annette qui se pencha dans le sein d'Argot.
« Ce sont eux qui l'ont délivré, » lui dit Vernier.
Cette phrase la fit regarder avec moins d'horreur ces brigands qui souriaient en voyant au sein de la nuit, au milieu des rochers et du silence de la forêt, deux têtes aussi pures et aussi célestes que celles d'Annette et de Jeanneton. Jamais deux femmes n'éprouvèrent plus de marques de respect et de dévouement. Ces hommes grossiers, devant les femmes de leur chef, devinrent soumis, souples et dévoués comme à des divinités. Elles n'avaient qu'à jeter un regard, il était interprété et satisfait. On leur fit une tente avec des feuillages et tous donnèrent leurs habits pour empêcher les effets de l'humidité. Argot et sa femme y entrèrent et l'on plaça des sentinelles à 100 pas de cet abri champêtre. Vernier eut le sien, puis le repas fini, le silence régna dans la forêt, comme s'il n'eût eu aucun être vivant. Vernier leur distribua les sommes convenues, et quand toutes ces instructions furent reçues par tous ces hommes, celui qui avait eu le commandement en son absence lui procura une grande surprise. « Capitaine, dit-il, il n'y a plus rien à chercher. L'ancien et nous tous sommes sauvés.
Comment ? » demanda Vernier.
Alors le vieux Tribel le mena dans une avenue du bois et là lui montra un de ces grands chariots qui servent aux rouliers. Cette charrette était chargée de fausses caisses, ballots, etc., si bien imitées que Vernier, regardant avec étonnement le corsaire, lui demanda ce que cela signifiait. Ce dernier fit un geste d'épaule en répondant « Eh, mon lieutenant, êtes-vous fou de vouloir aller en poste gagner avec vos relais la côte et nos vaisseaux ? Vous seriez pris 1000 fois pour une. Tenez !» À ces mots, il leva la masse de ballots qui semblait être derrière la voiture et il fit voir à Vernier que sous cette masse de tonneaux et de ballots, dont le poids semblait faire plier la voiture, ils avaient pratiqué très ingénieusement une petite salle dans laquelle on avait artistement ménagé la place de 2 personnes. Ils y avaient mis des vivres et l'air venait par-dessous la voiture. « Voyez-vous, mon lieutenant, l'un de nous mènera cela grand train et à chaque relais on changera de chevaux. Cela vaudra mieux qu'une voiture que les gendarmes peuvent visiter, car on peut frapper là-dessus. Je leur défie de s'imaginer qu'il y ait du monde là-dedans. L'ancien et sa femme voyageront ainsi, tandis que vous et votre Jeanneton, vous les rejoindrez comme vous pourrez. »
« Et qui de vous a fait cela ? » ?»«
C'est un de vos nègres qui est adroit comme un singe. Il a tout arrangé avec une telle dextérité que nous étions tous à l'admirer. Et tenez, voilà la lettre de voiture. » De ce moment, Vernier ne douta plus du succès de l'entreprise et il dormit avec une sécurité parfaite. Le lendemain matin, il renvoya Jeanneton à son auberge, car c'était chez elle qu'était établi le premier relais. Tout en promettant d'aller la rejoindre aussitôt qu'Argot serait passé, il lui enjoignit la plus grande prudence, et l'ayant conduite jusque sur la grande route, il la plaça à cheval, et lui donnant un baiser d'espoir, il la suivit des yeux. Quand il l'eut perdue de vue, il revint vers Argot et Annette, et leur montra avec la plus vive allégresse l'heureuse invention du nègre. Annette serra la main de ce serviteur zélé,
loua et admira cette cabane impénétrable aux yeux des plus grands Argus. Elle y monta, en descendit, l'essaya maintes et maintes fois, et dans sa joie, elle embrassa Argo devant tous les brigands qui s'étaient réunis. Mais honteuse et rouge, elle se cacha en se jetant dans les bras de son mari. « Allons, ne perdons pas de temps !» s'écria Vernier. « Mettez-vous dans cette cachette et voyagez pour arriver à bon port. »
« Vous êtes un ange tutélaire !» lui dit Annette, les larmes aux yeux.
« Non, c'est un démon qu'il faut dire !» À ces mots, il donna une poignée de main à Argo, qu'il embrassa contre son ordinaire en lui disant « Adieu !» En voilà pour jusqu'au moment du départ. Je suis fâché de te quitter, mais n'importe, je veillerai sur la charrette. Elle emporte mon plus grand trésor.
Pourvu qu'il n'arrive rien de fâcheux, dit Annette.
Argo était passif au milieu de tous ces dangers. Il embrassa Vernier à son tour et lui dit « La bonne réunion pour des amis, c'est dans le ciel. Tâche que nous soyons ensemble. Adieu. » Jacques et Annette furent incarcérés dans leur cabane protectrice. On y attela 4 chevaux, et un brigand, vêtu en roulier et en costume analogue, conduisit les fugitifs vers la grande route. Vernier, en les voyant sortir de la forêt, dit à ses hommes « Je ne m'en défends pas, je pleure en le voyant partir. Voilà depuis longtemps le seul péril que nous ne courions pas ensemble. »
« Il se sauvera !» fut le cri général.
Le lieutenant distribua encore une fois et de l'argent et ses instructions. Convint d'un rendez-vous en cas de nouveau malheur. Puis, se déguisant en paysan et cachant ses armes dans une hotte couverte de fruits, il se dirigea à travers les bois vers l'auberge de Jeanneton. Pour la première fois de sa vie, Vernier, soit parce que sa sensibilité avait été fortement excitée, soit par un pressentiment qu'on n'est pas maître de rejeter, était en proie à une terreur, une impatience, une mélancolie que son chant ne pouvait pas dissiper. Il courait à toutes jambes pour arriver plus vite à l'auberge de Jeanneton et s'arrêtait soudain à cause du bruit de ses armes qui sonnaient dans la hotte. Il aurait voulu avoir accompagné Jeanneton, ou du moins être sur la route. Il dévorait la terre, il marchait comme le vent, et cependant, comme il avait pris par des chemins détournés, il était physiquement impossible qu'il arrivât avant la charrette. Après avoir déployé tant de courage, tant de force, et fait de si grands efforts pour sauver un ami, il eût été déplorable pour Vernier de voir ses travaux rendus vains, et Argo enlevé au moment où le succès couronnait une œuvre dont la réussite avait causé tant de forfaits. Vernier, secouant toute cette erreur, se mit à marcher d'un pas ferme et soutenu, en chantant la chanson des pirates. Et bientôt, il aperçut de loin l'auberge de Jeanneton. Il approcha, mais en arrivant, il n'entendit aucun bruit dans la cour. Tout paraissait morne et inhabité. À ce moment, il ne fut pas maître d'un mouvement de terreur. En entrant dans la cour, il siffla l'air par lequel il avertissait Jeanneton de son arrivée, et ne vit personne à courir. Il s'élança brusquement dans la salle, le même silence régnait au-dedans. La cuisine de Jeanneton était vide. Se dirigeant alors vers la salle des voyageurs, il parvint au-dessous de la trappe décrite dans le précédent volume, et trouva Jeanneton évanoui, et comme morte. Pour cette fois, si la peur et ses vertiges sifflèrent aux oreilles de l'intrépide lieutenant, ils ne furent que les avant-coureurs de la plus horrible colère et du plus violent emportement qui fussent jamais. Il tomba sur un banc devant le corps de Jeanneton et resta muet comme le mur, pâle comme sa gentille maîtresse, et chaque trait de son visage se contracta de telle manière qu'il avait quelque ressemblance avec le tigre devant sa proie. Tout immobile et muet qu'il était, il détourna ses yeux et aperçut par la croisée la fatale charrette. Il ne sortit seulement pas. Tout lui disait que son ami et Annette avaient été découverts et enlevés. Il se leva,
prit Jeanneton, la mit sur ses épaules, qu'il avait débarrassée de la hotte, et dans son désespoir, il s'en alla à pas lents, armé de son tromblon en bandoulière et de ses pistolets à la ceinture, vêtu cependant en paysan. Mais en sortant par la porte de l'auberge qui donnait sur la grande route, il heurta le corps du fidèle roulier qu'il vit percé de balles. L'air fit rouvrir les yeux à Jeanneton. Elle jeta un cri faible et plaintif. Ses mains, qui étaient pendantes, vinrent avec peine se retenir à la chevelure de Vernier, et elle s'écria « Que dira-t-il » Le lieutenant rentra, et posant Jeanneton sur une chaise, il se mit devant elle à genoux. Puis, avec de l'eau, du vinaigre, il essaya de la faire revenir tout à fait. Ses yeux errèrent quelque temps sans idée. Enfin, elle vit Vernier, le reconnut, et, se cachant le visage, elle jeta un grand cri. « Qu'est-il arrivé ? » dit-il. « Jeanneton, raconte-le-moi, pour savoir s'il y a encore moyen d'y porter remède. » Jeanneton remua la tête deux fois d'une manière négative, puis, relevant Vernier, elle le fit asseoir, pencha sa tête sur son sein et y pleura en abondance. « Hélas ! » dit-elle en entremêlant son discours de larmes et de sanglots. « Quand je suis arrivée, j'ai trouvé mon auberge pleine de gendarmes déguisés en bourgeois. Ils paraissaient être des voyageurs, et Marie me dit que depuis mon absence, la maison avait toujours bien été. Elle m'ajouta qu'il y avait un poste de gendarmerie à 20 pas de notre maison. Ceci me donna du soupçon sur les voyageurs, et quand je fus habillée en costume d'aubergiste, je vins leur demander pourquoi ils restaient à boire au lieu de continuer leur route. » Ils me répondirent que cela ne me regardait pas. Alors, en les examinant, je m'aperçus que c'était des gendarmes. Cela me fit trembler, et je songeai que si la police avait su que ton premier relais était ici, elle avait dû naturellement s'emparer de mon auberge et y tenir garnison. Alors je dis à Georges d'aller au-devant de la voiture que je lui dépeignis, et d'avertir le conducteur de ne pas s'arrêter chez moi. Comme Georges sortait, un des gendarmes déguisés lui barra le passage en lui disant impérativement « On ne sort pas d'ici, vous êtes en surveillance. » Et il lui montra un papier. La voiture arriva, ils ne se doutèrent de rien, mais quand ils virent que l'homme dételait et allait mettre ses chevaux à l'écurie, ils l'accompagnèrent, lui firent 1000 questions, lui demandèrent ses papiers, et l'homme leur répondit imperturbablement en leur montrant des papiers dont ils furent satisfaits. Alors, pour être plus sûr de son affaire, le roulier crut devoir temporiser, et il vint à table en faisant comme s'il avait coutume d'arrêter ici. Tout allait bien, mais au bout d'une heure, quand il voulut repartir, il prit les chevaux du relais. Ils étaient différents des siens. Les gendarmes l'avaient remarqué, ils eurent des soupçons. Ils ont fait venir le poste voisin. Ils ont entouré la voiture, ils l'ont prise. L'homme a défendu M. Durantal si bravement qu'il leur a tué 5 hommes. Ils ont alors tous tiré sur lui. Il est là, fusillé. Ils ont emmené Argot lié sur une charrette de paysan, et madame est sur un matelas que je lui ai donné. Pauvre petite femme, elle fait peur. Elle l'embrasse, elle le console. Lui est comme un saint. Quoi ? Cela a fait pitié aux gendarmes. Cette pauvre Annette est là, comme si j'y étais avec toi. Elle ne prend garde à rien, elle ne voit que son mari. Elle lui donne les plus doux noms, et je suis sûre qu'elle traversera tout Valence sans seulement s'en apercevoir. On aura beau être aux fenêtres et la regarder, elle ne verra que lui. Est-ce du malheur ?
Vernier, immobile, lâcha un horrible jurement et s'écria.
« Vite, tous à cheval, à cheval !» Courons, nous les rattraperons sur la grande route et nous l'enlèverons. Non, c'est impossible, je suis seule. Oh, je le vengerai de manière à faire trembler tout le pays. Oui, je n'ai plus qu'à le venger et mourir. Oh, mon pauvre capitaine, un si brave homme. Il vous sautait sur un vaisseau avec sa hache, avec la figure calme comme celle d'une fille quand elle s'avance pour ouvrir un bal. Mourir comme un voleur.
Il termina cette oraison funèbre comme il l'avait commencée, par un effroyable juron.
et il dit à Jeanneton « Reste à ton auberge. J'y viendrai presque tous les jours à 5 heures du soir. Tu me verras toujours, et je veux mourir à tes côtés. »
« Est-ce que nous pouvons mourir autrement ?» répondit Jeanneton.
Après l'avoir embrassé avec force, Vernier reprit ses habillements véritables, s'arma et s'élança vers le chemin qui conduisait à la forêt, plein d'une rage qui le fit voler avec la rapidité d'un cerf. En ce moment, Argot et Annette arrivaient en face de leur château de Durental. Là, Annette, jetant les yeux sur leur misérable équipage, arrêta le chef de l'escorte et lui dit
« Monsieur, par pitié, ne nous laissez pas entrer à Valence sur cette horrible voiture. Monsieur Durental n'a jamais eu la volonté de vous échapper, et je crois que sa délivrance est impossible. Permettez que l'on aille chercher une voiture au château. »
L'officier était le même qui se trouvait dans la diligence lors du premier voyage d'Annette à Valence. Il condescendit à cette prière, et Annette eut la faible satisfaction de voir son mari dans sa voiture. Ils arrivèrent promptement à Valence. Chaque tour de roue était pour Annette une douleur, et sans le contact de l'être auquel elle avait donné toute sa vie, elle serait morte 100 fois. Mais la patience, la résignation, les discours touchants et pleins de religion que lui adressait Jacques la maintenaient dans un état que l'on peut imaginer, mais qu'il est impossible de décrire. Elle ne pensait pas. Son amour seul la guidait, et cet amour était devenu plus que folie. Tout avait disparu devant le malheur d'un époux adoré, et où la société voyait un criminel, elle voyait le plus sublime des hommes. Elle lui avait pardonné, monsieur de Montiver l'avait absous, elle ordonnait par ses regards à tout homme de les imiter, et si elle avait comparu devant la société entière, elle l'aurait persuadé. Ils arrivèrent quelques heures avant la nuit à Valence. La ville était calmée grâce aux soins de l'autorité. Mais quand on apprit qu'on ramenait monsieur Durental, une foule immense suivit et escorta la voiture jusqu'à l'ancienne prison. Monsieur de Durental y fut incarcéré, et sur le champ, l'autorité déploya la force la plus imposante autour de cette prison. Ce fut là que se passa la scène la plus touchante et la plus attendrissante dont les murs d'une prison aient jamais été témoins. On voulut séparer Annette d'Argot. Elle ne céda qu'à la force, et on l'entraîna, mourante, chez madame Servigné.
Quelle barbarie ! S'écria Charles en voyant sa cousine.
Il vous sépare d'un homme qu'il mène demain au supplice, car les délais de l'appel sont expirés.
Grand Dieu ! Cria Annette. Mon cousin, faites que je le voie, que je vive le reste de ma vie.
Elle tomba sans connaissance sur le lit de madame Gérard, que ces événements avaient presque déjà mis dans le tombeau. Charles s'en fut plaidé cette cause de l'amour devant les autorités, et il obtint qu'Annette resterait dans la prison de son mari jusqu'au matin. Adélaïde, Charles, M. Gérard, la conduisirent à la prison et lui apprirent que M. de Montiver était arrivé à Valence. Elle leva les yeux au ciel et y jeta un regard de douleur.
« Mon Dieu, dit-elle, voici longtemps que je vous abandonne, mais quel calice amer !» Mes amis, prévenez monsieur de Montiver qu'il sera agréable à Jacques d'être conduit par lui jusqu'au portique des cieux. Oui, mon époux de gloire ne fera que passer d'un vaste édifice de la création dans la création elle-même.
Courage, lui dit monsieur Gérard.
Oh, répondit-elle, j'en aurai tant qu'il vivra.
La porte de la prison se referma.
« Quel ange !» se dirent-ils.
« Elle est femme, ce qu'elle a été fille !» dit M. Gérard en pleurant.